J'ai choisi Jean chapitre 6, un soir de tempête, alors qu'on n'a pas toujours la facilité de faire beaucoup de choses, ils ont accueilli Jésus dans une barque. Jean chapitre 6, verset 15. Vous m'entendez bien ? Ça va ? Pas trop fort ? Pas trop faible ? Juste ce qu'il faut. Réjouissons-nous ensemble, le Seigneur n'est pas loin. Jean 6, verset 15. Et Jésus, ce texte fait suite à la multiplication des pains. Et la foule a été étonnée. Comment, à partir d'une main, a-t-il pu sortir autant de milliers de petits pains ? Bien sûr, c'est surprenant. Dieu est un Dieu qui nous surprendra toujours. Jean chapitre 6, verset 15, « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, peut-être 4-5 kilomètres, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Les apôtres donc traversent la mer sans Jésus. Il ne faut surtout pas traverser la vie sans Jésus. Ils n'ont pas prévu qu'il y aurait un grand coup de vent et que la mer serait agitée et que la barque serait bouleversée. On ne prévoit pas tout dans la vie. C'est pourquoi il ne faut pas traverser la vie sans Jésus. Ils partent sans Jésus et il fait déjà nuit. De toutes les façons, sans Jésus, il fait toujours nuit. Vivre sans Jésus, c'est comme une maison sans toit. C'est lire un livre dans la nuit sans lampe. C'est ça, vivre sans Jésus. On ne comprend pas. Quelqu'un disait, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Peut-être, si Dieu n'existait pas, pour moi c'est une absurdité. Il faudrait absolument comprendre la vie. S'il n'y avait pas la révélation de Dieu, il faudrait donner du sens aux choses. Pourquoi ? Où allons-nous ? D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Mais Dieu existe. Et il est proche. Et nous le croyons toujours loin. Nous le croyons même absent. Quelque part là-haut sur la montagne, comme dans le texte biblique, quelque part dans la montagne, tout seul. Certains même le croient méchant, mort, inexistant, plus dur que la pierre, l'imagination. Quand on ne connaît pas les gens, on s'imagine 10 000 choses sur eux. Mais Jésus est dans nos vies. Il est la vie de nos vies. Et nous le cherchons parfois dans nos rêves. Mais comment trouver Dieu ? Comment accueillir ce Dieu dont vous nous parlez, pasteur ? Comment l'accueillir ? Je pense que pour accueillir, il faut d'abord rien payer. C'est un salut gratuit. Il faut surtout de la simplicité. Il faut une certaine pauvreté de cœur. Ne pas s'encombrer de choses où il n'y aurait plus de place. comme l'homme qui mettait des chaises chez lui pour recevoir des gens, et il mettait tellement de chaises que les gens ne pouvaient plus rentrer. Et je pense que si nous voulons accueillir le Seigneur, il ne faut pas qu'on soit envahi de chaises, mais ce n'est pas ça le problème, envahi d'orgueil, de richesses fausses. Ça, c'est comme l'eau qui est rentrée dans le Titanic, et le Titanic penché, et il s'est cassé, et il a coulé. Pour recevoir Dieu, pour recevoir le Christ dans notre vie, Jésus nous a dit, il faut devenir comme les petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, si vous voulez vous considérer comme des enfants, il faut déjà reconnaître votre père. On ne peut pas être enfant sans un père. Il faut reconnaître que ce grand Dieu qui a fait tout, eh bien, c'est notre père. Heureux les enfants à qui les parents disent « Regardez la montagne, le nuage, l'étoile dans le ciel. Ça, c'est Dieu qui a fait. Ça, c'est notre père qui a fait. » Heureux les enfants qui entendent une direction, un sens aux choses qu'ils voient. Heureux les enfants qui entendent, eh bien, ce Dieu-là, il nous aime et tu dois prendre place dans le chemin de son salut. Alors le secret, ce n'est pas un secret, pour recevoir le Seigneur, pour l'accueillir dans notre vie, c'est ce savoir enfant, ce savoir petit, pauvre. Dieu nous parle par mille choses de tout cela. Notre premier catéchisme, je crois, c'est la nature. À travers la nature, Dieu se cache, Dieu parle, Dieu nous donne des leçons de vie. Va vers la fourmi, dit le Seigneur dans la Bible. Va vers la fourmi, paresseux, et regarde comment elle fait. Le Seigneur nous dit encore, qui prépare la pâture des corbeaux quand les petits crient à Dieu? Le Seigneur nous montre que les petits corbeaux crient à Dieu et Dieu pourvoit à leurs besoins. Avez-vous lu ces choses? Le Seigneur nous dit, regarde autour de toi et considère les choses que Dieu fait. C'est notre premier catéchisme. Peut-être que notre deuxième catéchisme, c'est la famille. Mais on a du mal à apprendre de la famille. Une maman, un père, avec son amour, la Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, il a pitié de ses enfants, comme une mère console son enfant. Eh bien, tout cela nous dit qu'au-dessus de nous, il y a des moyens de consolation. Il y a des réponses d'un Dieu qui nous aime. Et pourtant, nous ne le recevons pas. L'apôtre Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ce qui veut dire qu'on peut ne pas recevoir Dieu dans sa vie, jamais. On peut dans son existence ne jamais le prendre dans sa barque, comme les apôtres ce soir-là. On peut ne jamais lui ouvrir la porte. On peut vivre dans la nuit et même se moquer de la lumière. Les siens ne l'ont pas reçu. Israël, à l'époque, ne l'a pas reçu. Il faut l'accueillir. Savez-vous, mes amis, que c'est nous qui décidons d'accueillir Jésus. C'est le plus grand pouvoir de l'être humain. Le plus grand pouvoir de l'être humain, ce n'est pas de créer des trains et des avions et des bateaux, des centrales nucléaires. Le plus grand pouvoir de l'être humain, c'est de dire oui à Dieu ou non à Dieu. Oui à la vie ou non à la vie. Je n'ai pas décidé pour ma vie, mais Dieu me l'a donné, mes parents me l'ont transfusé. Ce n'est pas moi qui ai décidé de vivre, qui ai décidé de naître. Ce sont mes parents et Dieu qui, voilà, ont fait que je suis là. Mais avec Dieu, c'est moi qui décide. Il a frappé une fois une première fois dans ma vie doucement à ma porte. Veux-tu être guéri? Veux-tu vivre? Et j'ai ouvert la porte. Et depuis, chaque jour, il frappe à ma porte et j'ouvre. Et il me dit, veux-tu? C'est moi qui décide. C'est vous qui décidez d'accueillir ou de ne pas accueillir Dieu dans votre vie. Quel pouvoir redoutable! Je décide pour Dieu de quelque chose qui va déterminer mon éternité. Quel pouvoir! Dieu me le confie afin que je lui ouvre la porte. Alors pour accueillir Dieu, le Seigneur, le Jésus de Nazareth, je pense qu'il faut être humble. Être humble, ça ne veut pas dire pleurnichard. Être humble, ça veut dire, Seigneur, je n'ai pas de sécurité véritable sans toi. Sans toi, je ne tiens rien, je ne fais rien, je ne suis rien. Il faut être humble et pauvre. Pauvre, ça ne veut pas dire être sale, vivre sans maison, ne jamais manger. Pauvre, c'est dire, Seigneur, rien ne pourra me tenir debout quand tu m'appelleras et que tu me diras, entre dans le royaume de ton maître. Si je n'ai pas avec moi le Christ, alors je ne pourrai jamais tenir debout. C'est cela, être pauvre, c'est ne rien avoir pour s'appuyer que Jésus. C'est ça, être humble, c'est ne pas avoir de sécurité sans Jésus. Lui, la clé de voûte, lui qui est à la fois la clé et l'arc de voûte qui tient l'existence. Le reste, nos pouvoirs et nos richesses matérielles disparaîtront à la lumière de son regard. Tout disparaîtra comme une vapeur, comme nos rêves. Avez-vous remarqué que parfois nous faisons des rêves magnifiques quand même? Parfois j'ai remarqué qu'on a des rêves pleins de génie. On se dit, mais c'est formidable ce que j'ai rêvé. Il faut que je l'écrive. Il faut que j'écrive ça pour faire quelque chose avec cette pensée qui m'est venue. Et puis quand on arrive au matin, nos rêves, on les trouve nuls. On les croyait extraordinaires et finalement, quand on est dans la lumière, ça paraît nul. Mais tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on fait dans l'existence sans Dieu, c'est une vapeur. Et quand nous serons devant lui, eh bien, nous verrons que ce n'est que de la paille qui brûle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Le recevoir. Je crois que tout être humain peut, même si tout est agité autour de lui, comme les apôtres dans la barque qui ont reçu Jésus avec eux dans la barque, si tout est agité et qu'on se dit « j'ai plus la tête, j'ai plus le cœur, j'ai plus l'enthousiasme, j'ai plus la jeunesse, j'ai plus », si tout est agité, il y a toujours une place pour accueillir le Maître qui marche sur les flots déchaînés de votre cœur, comme ce soir-là à Capernaum. Rien de durable sans Jésus dans la maison. Rien de solide sans Jésus dans la charpente. Rien de vrai sans Jésus dans nos pensées. Jésus, Jésus seul. Vous me direz, mais monsieur le pasteur, mais quelle preuve vous avez? Quelle preuve vous avez pour affirmer comme ça que sans Jésus, nous ne sommes rien? Oui, je crois en Dieu. La preuve que je pourrais vous donner, vous la partager si vous voulez, la preuve que, pour moi, de Dieu, c'est que je le connais. Je crois en lui parce que je le connais. Je connais ses paroles, je connais sa volonté, je connais ses goûts, je connais ses projets, je connais sa bonté. J'explique pas tout, hein. L'apôtre Jean, il disait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment? C'est un grand mystère quand même. Nous sommes passés de la mort à la vie. Je crois parce que je connais Dieu. Ce n'est pas une torture de l'esprit. Vous savez, croire, il y en a qui s'efforcent de croire, qui font des gros efforts pour croire. C'est comme quand j'étais enfant, personne ne m'a dit « Crois-tu que tu as une mère ?»« Crois-tu que tu as une mère ?»« Ben oui. » »« Mais comment tu sais que tu as une mère ?»« Ben, je la connais, je l'aime. » »« Je n'ai pas de preuves mathématiques, mais je connaissais ma mère, je l'aimais, et puis ça me suffisait. » Je ne me forçais pas en fermant mes yeux le soir. Il faut que je croie dans ma mère, il faut que je croie dans ma mère. Elle était là, penchée sur mon lit, pour m'embrasser avant que je dorme. Nous croyons parce que nous connaissons. Connaissons Dieu, sa trace dans notre vie. Jésus disait, si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui. Ça, on le vit. Nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est l'expérience du chrétien qui ne s'explique pas. Ce n'est pas des choses physiques qui s'expliquent. Nous ferons notre demeure chez lui et je me ferai connaître à lui. Si Jésus habite en moi, comme ma mère habitait dans la maison, on dormait dans la même chambre d'ailleurs, je la voyais le matin, je la voyais le soir, je la voyais à midi, je la voyais toujours. Si le Christ habite en nous, j'ai des preuves, j'ai des preuves, je sais, mes yeux le voient, je le ressens, je connais son pardon, j'expérimente son pardon, je crois en lui parce qu'il nous pardonne et son pardon, il descend, comme dit la Bible, jusqu'à la moelle des os, dans les péchés que personne ne voit, dans les péchés même qu'on ignore nous-mêmes. Il descend là profondément dans l'obscurité de nos pensées intérieures. Je crois en lui parce qu'il me pardonne. Je ressens à travers lui une paix, un bonheur d'être porté. Je crois en lui parce que je connais sa joie. Je connais sa joie qui me permet de regarder demain en toute tranquillité. Je connais sa joie qui me permet de faire des choses difficiles. Et on ne peut pas faire de choses difficiles sans la joie. On ne peut pas s'occuper de choses qui nous dépassent sans une joie en nous. C'était Klarsfeld qui a défendu la cause des déportés et de ceux qui ont été torturés par les nazis. Et pendant des dizaines d'années, il a fait cela avec sa femme. Et il a dit encore récemment, « Je n'aurais jamais fait ça sans une joie en moi. » Sur la joie de savoir que j'étais pas seul. Oui, je crois parce que j'ai la joie qui me permet de ramer encore comme les apôtres, de continuer sans me décourager, de savoir que je ne suis pas seul. Et puis, je crois parce que j'entends sa voix quand je suis dans la fosse aux lions, comme Daniel qui a été jeté dans une fosse aux lions, qu'il allait dévorer en quelques secondes, mais les lions n'ont rien fait. Et Daniel croyait, parce que dans la fosse aux lions, probablement qu'il a entendu dans son cœur une parole un peu comme celle-ci, « Ne crains pas, crois seulement, je suis avec toi. » Et dans nos difficultés les plus difficiles, avec nos enfants, notre mari, notre femme, le travail, la santé, on peut entendre dans notre cœur la voix de Jésus en lisant les évangiles. Cette voix, elle se grave, elle s'écrit, elle s'imprime. Et cette voix, elle nous dit, ne crains pas, crois seulement, je suis avec toi dans tout ce que tu vis. Ou quand nous sommes dans la barque agitée comme les apôtres ce soir-là qui ramaient, il y avait de la tempête et pas une parole d'encouragement. Pierre n'a pas dit, mes frères, courage, il ne l'a pas dit. Ni Jacques, ni Jean, ils n'ont pas dit, allez, ça passera, courage. Pas une parole d'encouragement. Et peut-être que vous n'avez pas de parole d'encouragement. Mais croire, c'est entendre cette voix de Jésus en nous qui nous dit, ne crains pas, crois seulement, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Vous savez, aujourd'hui, on a dépassé toute mesure dans le mal. On est ingénieux à faire le mal. On a raffiné la mort. On a raffiné la souffrance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde apocalyptique où le mal est une industrie humaine. On supprime la nature, on supprime ce qui fait la vie. Le mal est un raffinement de l'intelligence obscurcie des hommes. Et aujourd'hui, on a dépassé toute mesure dans le mal. Mais je crois, parce que je connais la parole de Jésus, qui nous dit « Ne crains pas, j'ai vaincu le monde. Je suis plus fort que le monde. Et je vous prépare une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez ce nuage de pollution, de péché, de mal, de terreur sur le monde, redressez vos têtes, parce que je viens bientôt pour vous chercher. Ne crains pas, j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu le monde. Accueillir. Depuis le commencement du monde, les oiseaux chantent. Ils chantent et ils continueront de chanter. Peut-être que des gens diront « tout ça c'est dépassé, les oiseaux, pff, à côté des trans musicales, les oiseaux, pff, ça fait pauvre. » Aujourd'hui, on peut penser que l'oiseau, il est dépassé, on ne l'écoute pas, d'ailleurs on met des casques sur nos oreilles, on n'entend que de la musique très très hard. Ou alors on supprime carrément les oiseaux, puis c'est tout. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Mais l'oiseau, il continue de chanter. Vous ne le ferez pas taire. Qu'il fasse froid, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, l'oiseau, il chante avant même que vous vous réveilliez. Il chante déjà dans l'arbre de la rue ou de votre jardin. Et il reviendra chanter encore et encore. Et Dieu, on voudrait lui clouer la bouche, le fermer la bouche, mais il continue de parler, de frapper à votre porte et de vous dire « Je veux enlever ton cœur de pierre et mettre à la place un cœur de chair. » Et un cœur de chair, ça veut dire un cœur sensible pour entendre ma voix à travers les événements les plus graves de ton existence. « Je veux que tu entendes ma voix, ne crains pas, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dieu continue comme l'oiseau de nous parler. Et il ne changera rien à son amour. C'est un peu comme le père admirable du fils prodigue. Vous savez, cet enfant qui est parti dans la nature, il a choisi la fugue, il a choisi de dissiper son bien, sa jeunesse, sa santé, son avenir. Et qu'a fait le père ? Pensez-vous qu'il a dormi tous les jours facilement? Pensez-vous que le matin, il se réveillait sans souci pour son fils? Et qu'avec sa femme, il n'ait pas parlé des nuits, de l'enfant disparu? Où est-il? Que fait-il? Reviendra-t-il? Jamais le père a dit à sa femme ou à son autre fils, « Bon, maintenant, on va considérer que notre enfant, il est disparu. » Puis c'est tout. On va fermer le dossier, fils prodigue. Terminé. Disparu. On n'en parle plus. Non. Il a attendu. Le père, il espérait tout. Il croyait tout. Il supportait tout. Il était là. Et j'aimerais vous dire, Dieu espère tout pour vous. Il attend. Il croit. Il sait que lui ne va pas vous lâchez. Il vous cherchera comme le berger qui cherche son mouton perdu dans le fossé. Il vous cherchera jusqu'à ce qu'il vous trouve. Et si je ne veux pas, vous cherchera quand même. Si vous dites « je ne crois pas au soleil », le soleil brillera quand même pour vous. Si vous dites « je ne veux pas », le soleil brillera quand même. Et Dieu vous aimera quand même. Et il espère que vous ouvrirez la porte, que vous l'accueillerez, que vous le recevrez. Le salut, c'est quoi? C'est recevoir la parole qui peut faire de nous des enfants de Dieu. Comme la parole a créé des montagnes, comme la parole a mis en mouvement la mer, comme la parole a fait pousser la végétation, comme la parole de Dieu a produit les poissons, les quadrupèdes, les reptiles, toutes sortes de bestioles. La parole de Dieu est capable, si vous ouvrez la porte, de créer en vous une vie nouvelle. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est lui. Mais ça, c'est ce que nous vivons depuis des milliers d'années. Dieu crée toutes choses nouvelles en nous. Je vois parfois les émissions sur les poissons. Je me dis, mais quelle intelligence ce Dieu! On a découvert depuis quelques années les poissons, on ne les connaissait pas. Les poissons qui sont à 1000 mètres de profondeur, 3000 mètres de profondeur, 4000 mètres de profondeur, comment allez-vous filmer des poissons? Il y a des poissons qui changent de couleur, qui changent de forme, qui deviennent transparents, à pois vert, à pois rouge, à pois bleu. Il y a des poissons lumineux, on n'y comprend plus rien. On a l'impression que Dieu joue avec sa création, il fait des choses nouvelles, sensationnelles, magnifiques. Et ces poissons, il y a en eux des remèdes pour nos cancers, des remèdes pour nos maladies. Puis avec nous, que fait Dieu? Ben rien, il n'y a pas Dieu. Dieu, ça n'existe pas. Il agit, mes amis. Celui qui crée des poissons avec une facilité époustouflante, ce Dieu-là peut créer en nous une vie forte, tonique, rayonnante, lumineuse, une vie éternelle. Parce que sur la croix, la porte a été ouverte. Dieu a ouvert sa porte en disant « Je vous donne le sacrifice de mon Fils, je vous donne l'amour en mourant pour vous. Venez, venez en foule, le salut vous attend, le pardon vous attend. Amen. »